Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour notre dernier rendez-vous de la semaine où le cinéma va être à l'honneur. Deux films au sommaire de cette émission. Le premier vient tout juste de sortir en salle. Il a été réalisé par Céline Salette et il a pour titre Nikki. Vous pouvez le voir en ce moment au cinéma L'ABC à Toulouse. Et puis en seconde partie de ce numéro, nous allons revenir sur un film réalisé en 1966 par Pier Paolo Pasolini, Uccellacci e Uccellini. On en parle avec mes deux invités. Et mes deux invités sont Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à vous deux aussi. Nous allons donc commencer par Nikki, film retenu pour le Ciné-Parole que vous animez ensemble à l'ABC mardi prochain, le 15 octobre à 14h30. Nikki, c'est l'artiste plasticienne Nikki de Saint-Phalle. Mais avant d'en parler, je vais demander d'abord à Louis-Marie Solaire de nous présenter Céline Salette, la réalisatrice de ce long métrage qui est, si je ne me trompe pas, son premier. Elle était surtout connue jusqu'alors en tant que comédienne.
Marie. Oui, c'est ça, elle est surtout comédienne, c'est son visage et son jeu d'actrice qu'on connaît mieux. C'est une formidable actrice, Céline Salette. Elle a commencé comme étudiante en art du spectacle, au théâtre, et elle rentre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique entre 2003 et 2006, et elle est l'élève d'Ariane Mnouchkine. C'est vous dire si elle a bien commencé dans la carrière d'actrice et de comédienne, et elle joue d'ailleurs plusieurs pièces, sur scène des pièces de Shakespeare notamment. Alors on la voit pour la première fois en 2004 sur les écrans, à Montrégulier, et puis en 2006, elle est Marie-Antoinette pour Sofia Coppola. C'est comme ça qu'on commence à s'habituer à découvrir son visage avant qu'elle ne soit dans bon nombre de films, et notamment le premier qui sort du lot, c'est La Polonie de Souvenirs de la Maison Close de Bertrand Bonello, où elle est formidable. Après, on l'a vu devant la caméra de différents réalisateurs comme la réalisatrice Valeria Bruni Tedeschi dans Un château en Italie, et puis elle a des seconds rôles pour De Rouillé d'Os ou Le Capital, ou encore elle est dans La French de Cédric Jiménez aux côtés de Jean Dujardin, et récemment le film dont on a beaucoup parlé, qui dénonce des problèmes écologiques, Les Algues Vertes, c'est elle qui en tient le rôle principal. Voilà pour situer la carrière d'actrice de Céline Salette, et on comprend combien elle a pu avoir envie maintenant de mettre en scène. Elle a un parcours particulier.
C'est pas tout à fait sa première réalisation, je crois qu'elle a fait un court-métrage.
Oui,
aussi,
oui. Comme souvent avant de
on
se
commence par un court en général.
Oui.
Ou un moyen.
Parenthèse faite, à propos du court-métrage, on essaye de donner ses lettres de noblesse au court-métrage en disant que c'est un film à part entière et qu'après tout,
absolument,
pourquoi ne pas faire que des courts-métrages? Pourquoi forcément passer au long?
C'est pas parce que c'est court que c'est mineur.
Exactement.
Pourquoi a-t-elle eu envie de consacrer justement ce premier long-métrage à Nikki de Saint-Phalle? Alors je crois que c'est à travers une vidéo. Une interview de Nikki de Saint-Phalle qu'elle a vue en 65.
Hein. C'est ça, elle a vu une interview où elle voit que Nikki casse un peu la figure qu'on attend d'elle, et elle prend position sur sa façon d'aborder les œuvres d'art, qui ne sont pas du tout dans l'air du temps à ce moment-là, encore qu'il y a tout un groupe qui se retrouve dans les mêmes perspectives. Mais pour le grand public, c'est quand même un art un peu dérangeant. Surtout pour les hommes.
Oui, alors je pense qu'on en arrive un peu au vif du sujet. Ce film est biographique, bien sûr, mais on ne peut pas dire pour autant qu'il s'agit d'un biopic, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il nous montre en fait qu'une partie de la vie de Nikki de Saint-Phalle, et pas toute sa vie, le film recouvre la période des années 50-60, le moment où elle va devenir artiste.
C'est 9 ans, c'est 9-10 ans qui sont déterminants. Ce moment-là, alors c'est assez symptomatique, la première image du film est particulièrement importante, elle a été, parce qu'elle c'était une femme très belle, Nikki de Saint-Phalle.
Elle a été mannequin.
Elle a commencé à être mannequin, et le premier plan qu'on voit d'elle, c'est un plan en buste, un portrait, elle est maquillée, habillée pour poser pour un photographe, on voit très bien que c'est une mannequin, on entend les conversations autour d'elle, elle a un visage lumineux, éblouissant, jusqu'à ce qu'un projecteur pète, explose, et alors à ce moment-là, elle vient dans la pénombre et tout s'effrite, et on comprendra ce qui se passe pendant ces 10 ans avec le dernier plan, qui est, en fait, on ne trahit rien, puisque c'est l'affiche du film, où alors, elle n'a plus du tout cet air, elle a les cheveux coupés n'importe comment, un fusil à la main qu'elle brandit. Entre ces deux moments, eh bien, va se passer cette mutation qui va faire d'elle, de Nikki de Saint-Phal, cette femme, cette top modèle, va devenir une grande artiste.
Oui. Voilà, qui sort d'un milieu bourgeois, vraiment bourgeois, donc elle est née à Neuilly d'ailleurs, même si elle mourra aux États-Unis, ça on ne voit pas à la fin de sa vie de toute façon. Donc une mère américaine et un père aristocrate. Très vieille famille aristocratique, qui
absolument.
Descend c'est les croisades, hein.
Avec
c'est la noblesse chevaleresque.
Oui, une rigueur dans le cadre familial dont on verra que ça peut cacher quelques turpitudes.
On va y venir, bien sûr. Alors, les personnages principaux du film et les acteurs qui les interprètent, tous sont excellents, moi j'ai trouvé.
Ah, voilà.
Il y a évidemment Nikki de Saint-Phal, et puis il y a son mari, l'américain.
Oui.
Interprété par John Robinson, et puis après son compagnon qui est aussi un artiste fameux incarné par Damien Bonnard, et puis il y a cette femme qui gravite autour et qui a une influence assez importante, voire capitale dans son cheminement, incarné par Judith Chemla. Voilà un peu en gros les acteurs et les personnages qu'on trouve autour d'elle. Important, il n'y a pas que, évidemment.
Mais ce sont les personnages principaux, effectivement.
Ce sont les personnages principaux et qui vont accompagner cette mue, parce que c'est ça. Et en fait, cette mue, elle n'arrivera à se faire qu'à partir du moment où elle aura fait, Nikki de Saint-Phal, un travail sur elle.
Oui.
À l'époque, on disait pas ça comme ça, parce qu'après, ça amenait le plus souvent à un traitement particulièrement
choc,
c'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'à l'époque, le moindre problème psychiatrique qu'on pouvait avoir, il y avait un traitement, les électrochocs. Et puis c'est tout.
Enfin, il faut savoir que les électrochocs, ça durait bien au-delà des années 50.
Certes, mais pour situer à cette époque-là, c'était comme ça.
C'était
de base. Électrochocs, et on était coupé de tout. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de contact, évidemment, avec l'extérieur, mais on ne pouvait rien faire d'autre que penser à soi, être resté assis toute la journée en attendant la séance d'électrochoc jusqu'au lendemain, etc. C'était comme ça. On se demande comment ça pouvait soigner.
Alors, les électrochocs, un des objectifs de l'utilisation de ce moyen qui peut paraître barbare, évidemment, c'était d'effacer la mémoire négative, les mauvais souvenirs. Et en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'il fallait faire pour Nikki de Saint-Phal.
Non, pas vraiment. Mais grâce à ce traitement de choc, on ne peut pas dire autre chose, elle aborde un autre aspect de sa vie personnelle. Et elle a besoin de faire. Elle n'est pas simplement dans les lucubrations ou les idées. Il faut qu'elle rassemble des objets. Alors elle commence par faire de la pâte qui remplace la colle à partir de mie-de-pain qu'émache, et puis elle colle des objets. Et le médecin de la clinique psychiatrique qui voit ça est surpris de voir qu'elle se met à créer des choses alors que les autres sont plutôt dans un état végétatif.
C'est ce qu'il lui dit. Normalement, avec le traitement qu'on vous administre, vous devriez être incapable de faire quoi que ce soit.
C'était d'ailleurs l'objectif. D'ailleurs, même à un moment, elle demande à une infirmière, l'infirmière chef, si elle peut avoir du papier et des crayons.
Eh bien non.
Ce qu'on lui refuse. Ça fait partie du traitement, elle ne doit rien faire. Et c'est ce qui surprend le médecin au point où c'est une des rares patientes, si ce n'est la première en tout cas, pour ce médecin dans le traitement, il la laisse faire. Et il lui donne de quoi faire. Après la colle approximative faite avec la mie de pain, comme le disait Paul, elle aura des crayons de couleur, du papier et de la colle.
Elle demande si son mari peut lui apporter des couleurs.
Exactement.
Et son mari
lui-même lui donne un petit pot de colle, je crois.
Oui, le médecin lui donne un pot de colle, oui.
Les acteurs, parce qu'on est passé un peu rapidement, là, on a donné les personnages principaux, il faut parler de celle qui incarne Nikki de Saint-Phal, Charlotte Lebon.
Elle est
québécoise, actrice québécoise.
Parfaite qu'on connaît parce qu'elle a été Miss Météo à la grande époque de Canal+.
Oui.
Donc on connaît sa silhouette. Il faut dire qu'elle est stupéfiante, et c'est ce qui a frappé d'ailleurs Céline Salette, au point qu'elle ressemble même à Nikki de Saint-Phal, elle a cette même beauté un peu éthérée, et même comme elle, alors pas dans les mêmes proportions, mais elle aussi est artiste, elle aussi crée, elle aussi
a été mannequin. Elle a été mannequin.
Aussi.
Il y a beaucoup de points communs entre les deux femmes. Elle me fait penser à ces actrices des années 40-50, une espèce de croisement entre Joan Crawford et Bette Davis.
Exactement.
Ses grands yeux, vous savez, d'oiseau de nuit.
Ah oui, extraordinaire.
Avec des cils et ce visage très régulier.
Alors c'est vrai, il y a une similitude entre les trois personnages, la réalisatrice, l'actrice et la personne qu'elle doit incarner.
Nikki de Saint-Phalle.
Il y a une chose quand même qu'il faut qu'on précise. Alors j'ai dit, c'est pas un biopic, mais non. C'est pas non plus un film sur l'art, c'est pas un film sur la création artistique. Si vous voulez voir un film sur la création artistique, il faut voir Le Mystère Picasso de Clouzot. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, on ne voit pas les œuvres de Niki de Saint-Phalle. Je crois qu'ils n'ont pas eu les droits.
Et pour cause, parce que de toute façon, c'est pas la première réalisatrice à s'être cassé les dents là-dessus. C'est-à-dire que la famille de Niki de Saint-Phalle est intransigeante. Aucune œuvre de Niki de Saint-Phalle, quoi qu'il se passe, ne peut apparaître à l'écran. Et il y en a d'autres. C'est pas la première réalisatrice ou réalisateur. Céline Salette a voulu faire un film sur Niki de Saint-Phalle, mais ils se sont tous cassés les dents par rapport à ça. Et elle, finalement, par rapport à cette difficulté, en mettant les œuvres hors champ, elle arrive à créer justement cette ambiance, cette façon de voir dans les yeux même de Niki de Saint-Phalle, Charlotte Lebon, on voit les œuvres finalement, on la voit créer et on comprend ce qu'elle veut donner, ce qu'elle veut livrer. Alors évidemment, on ne peut qu'imaginer ce qu'elle obtient après en faisant tous ces gestes, mais c'est capital dans le chemin, parce qu'en fait, ce qui a intéressé Céline Salette, c'est ce moment où elle commence à vouloir dessiner, créer, faire de l'art et arriver à devenir célèbre. Mais pour arriver de ce point A à ce point B, en fait, elle va devoir faire un travail sur elle plus qu'un travail artistique.
Vous parlez d'ambiance, on va se mettre dans l'ambiance justement de ce film en écoutant tout simplement sa bande-annonce et on y entend bien sûr essentiellement le personnage principal, joué donc par Charlotte Lebon.
Et pourquoi s'arrêter de peindre sur cette partie ?
Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails. Je veux faire ma création à moi.
Tu dois aller vers là.
La poésie, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais.
C'est un bon repère d'artiste, c'est un pas, ça.
Bon, je vous présente Niki.
Toute maigre. Attends, on va te donner à manger.
Donne-lui.
Moi, c'est vrai, c'est vraiment ma maladie.
He wants you to stay here.
En général, le traitement est si intense que jamais aucun patient n'a la force de faire quoi que ce soit d'autre. Manifestement, vous faites exception.
J'ai peur des monstres, maman.
Moi aussi.
Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous vous souvenez pas ?
Je sais ce que je vais faire.
Vous êtes en train d'écrire une page de l'art.
Alors, Niki, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Si tu dis pas ce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu.
Il faut que tu regardes les choses autrement.
Je voulais que ma vie soit difficile et excitante. Je voulais que ce soit grand.
Ça va être grand, t'as vu, Niki.
La bande-annonce de Niki, le film de Céline Salette, projeté en ce moment à Toulouse au cinéma L'ABC. Alors, un peu esquissé justement dans cette bande-annonce, le propos du film, en fait, qu'est-ce que c'est, Paul Dima ? C'est l'histoire d'un traumatisme à la base.
Alors, à la base, un traumatisme qui a été refoulé, qu'elle n'a pas voulu voir ou qu'elle ne pouvait pas voir.
Qui ressort à travers des cauchemars.
Syndrome post-traumatique. Lié à un inceste par son père.
Elle a été violée par son père lorsqu'elle avait 11 ans, ce qu'elle révélera beaucoup plus tard
à l'âge de 64 ans,
voilà, oui. En 1994.
Voilà. Et dans le film, on voit, comme disait Louis-Marie tout à l'heure, le passage du point A au point B, c'est-à-dire qu'on découvre Niki dans sa période où elle ne pouvait plus vivre. Enfin, elle était enfermée, doublement enfermée, en elle-même et dans l'hôpital psychiatrique, avec ce qu'on a dit des traitements un peu de choc, complètement de choc même, où elle a besoin de créer, de faire. Et on voit son évolution tout au long de ce parcours. Alors, elle baigne aussi dans un groupe d'artistes, hein, on les voit dans le film.
C'est tous les artistes du Nouveau Réalisme, on l'entend.
On l'appellera, oui. Le Nouveau Réalisme.
Klein, Ernst, Christo. Armand, et surtout...
Christo et Tinguely. qui sera son mari plus tard.
Oui, voilà.
Même s'il apparaît à ce moment-là dans sa vie.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, comme elle n'a pas eu le droit, la réalisatrice, de présenter les œuvres de Nicky.
Alors, sachant que ce sont des œuvres quand même très connues, il y a eu une exposition il y a 2 ans à Toulouse,
oui,
par exemple,
qui a fait courir le public.
Il faut voir
d'ailleurs
que c'est une artiste qui a eu beaucoup de commandes au cours de sa carrière et qui a eu effectivement.
Qui a pu faire des projets gigantesques d'ailleurs.
Une médiatisation, oui, comme on ne disait pas à l'époque. Oui. Mais voilà, il y a eu ces grandes commandes. Il y a la fameuse fontaine Stravinsky à Beaubourg, faite avec Tinguely.
Le jardin des tarots en Italie, voilà, etc. Enfin, c'est énorme.
C'est pas du tout quelqu'un, c'est pas la femme dont la carrière a été complètement étouffée, au contraire.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le film, qui n'est pas un biopic, est centré sur l'évolution de cette femme, ce qui lui permet de passer de ce traumatisme premier à sa réalisation à elle. Et évidemment, elle franchit des règles habituelles de la peinture ou de la création artistique, mais elle défend.
Elle n'a pas une formation de peintre, c'est pas
non
du tout quelqu'un qui est passé par les beaux-arts. D'ailleurs, elle le dit à un moment au début, il faut que j'aille dans une école, il faut que j'apprenne à peindre.
Mais en même temps, on entend dans la bande-annonce qu'elle veut poursuivre son idée. Elle ne veut pas répondre aux canons qui sont en place pour l'art, pour la peinture, etc. Et elle dit, mais je me fiche des détails, moi c'est comme ça que je le sens, et je ne fais pas, voilà.
Oui, d'ailleurs, pour revenir encore à la bande-annonce, à un moment, on entend une voix qui lui dit « Mais pourquoi vous avez arrêté de peindre ?»
C'est ça.
Là, c'est pas la peine. C'est comme ça. C'est fini. C'est comme ça.
Et puis, ça ne m'intéresse pas.
Exactement. Et c'est cette façon de créer qui a surpris les premières expositions auxquelles elle a participé. Elle était toujours mise un petit peu au banc. Parce qu'en plus, elle avait une attitude, un comportement pour une artiste. D'habitude, l'artiste, il expose ses œuvres. Et puis, il est là, il peut parler avec les gens qui passent. Mais voilà, les œuvres sont là, prêtes à être observées, aimées ou pas. Et elle demandait le plus souvent aux gens qui passaient de participer à la création de l'œuvre. Elle dit, mettez-vous là, prenez ça et jetez-le sur la toile. Autant souvent ça ne marchait pas, et à un moment dans le film, on voit, il y a un groupe de jeunes gens qui prend ça, puis il y en a un qui prend pour essayer, pour s'amuser, il jette. Et d'un coup, le geste qu'il fait le ramène à quelque chose qu'il doit ressentir, dont on ignore complètement le motif, la raison. Et
un petit peu quand même, parce que...
Et voilà, il se met à s'acharner. Et pour le coup, ses copains et même Nicky...
Tout le monde est sidéré.
Est sidéré.
Sur qui tire-t-il ? Qui vise-t-il ? Et il y a le frère ce quidam là qui passait, qui dit son père.
Son père,
notre
voilà.
père. J'ai
voilà.
Plus
voilà. Et sur qui tire-t-il ? Effectivement. Et voilà. Et donc, Nicky de Saint-Phalle, c'est ça. C'est cette façon, hors des sentiers battus, je ne sais pas comment le dire, de créer. Parce que quand on la voit avec le fusil, ce n'est pas pour tirer sur quelqu'un, ce n'est pas pour tirer sur un animal. Elle tire sur quelqu'un, mais au sens
symbolique, elle tire sur quelqu'un.
Symboliquement, certes, mais elle ne tue personne, c'est ça que je veux dire, aucun animal.
Elle tue symboliquement.
Elle vise la toile qu'elle est en train de réaliser.
De réaliser, exactement, elle vise la toile.
Mais elle met une cible quand même sur la toile.
Oui,
certes.
Il y a une chose, je voulais dire, il y a un épisode très important, c'est qu'à un moment donné, son père lui envoie une lettre où il reconnaît tout ce qu'il lui a fait subir. Elle la montre à son psy, celui qui l'a soigné, si on peut dire, qui l'a accompagné. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il la brûle devant elle. Et là, elle devient complètement folle.
Et ça, elle lui fait le reproche après, parce que sur le coup, elle est complètement sidérée. C'est la seule preuve qu'elle avait de l'aveu de son père incestueux. Et elle revient plusieurs mois après, parce qu'il y a des rechutes, et elle dit, je vous demande de me demander pardon. Et le psychiatre
ne la regarde pas.
Il est les mains croisées comme ça sur son bureau et on le sent enfermé. Et là, c'est très très fort comme scène. On voit que les hommes se défendent entre eux.
Évidemment, ça symbolise le patriarcat. Je pense que tout le monde a compris. Des hommes d'un certain milieu social, attention, qui se protègent entre eux.
En tout cas, malheureusement, pour les femmes abusées, et Nicky en particulier. Oui. Parce que pour arriver à faire ce travail sur elle et dépasser tout ça, il aura fallu tout ce temps, puisqu'elle a pu le dire à sa famille qu'à l'âge de 64 ans.
Oui, on voit bien que c'est un film très actuel en même temps.
Ah ben oui, ça, c'est moins qu'on puisse
et,
dire.
Et donc, très avant...
Enfin, l'angle qu'elle a choisi il n'est pas évidemment un hasard.
Oui, oui.
Et encore une fois, ce n'est pas un film sur la création artistique, parce que là, qu'est-ce que c'est la création artistique pour Nikki de Saint-Phalle? En fait, c'est une sorte de thérapie, même d'exorcisme, pourrait-on dire.
Oui.
Donc, ce traumatisme du viol. Alors, si on voit le film comme ça, sous l'angle de l'art-thérapie, par exemple, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur par rapport à son œuvre? Ou est-ce que c'est tout simplement la réalité? C'est ce que ça a été pour elle, avant tout.
En tout cas, pour partie, oui, probablement. Mais après, c'est forcément l'interprétation de la personne qui réalise le film. Mmh. En l'occurrence, Céline Salette. C'est un point de vue qu'on peut partager ou pas. C'est ça qui fait l'intérêt des films, de ce film et des films en général et de toute œuvre d'art, à savoir comment, face à ça, le spectateur va l'interpréter. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. En tout cas, ça a le mérite de montrer... et d'essayer, de tenter d'expliquer le cheminement d'un artiste.
Oui, et là où le film est très fort, c'est que c'est un regard qui est porté sur une personne, mais ce n'est pas la personne elle-même, c'est le regard porté sur cette personne qui donne un angle d'approche, et c'est le rôle du cinéma. On dit c'est du cinéma, mais le cinéma est une façon de montrer ce qu'on ne voit pas en direct. Et c'est très fort. Alors il y a tout le jeu de miroir, etc., et des fois un petit peu appuyé, bon, on a compris. Mais c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit comment la réalisatrice, Salette, là, s'approprie, enfin, nous livre son regard sur Nikki.
Alors, c'est un film féministe, à n'en pas douter. Oui. Est-ce que c'est un film contre les hommes?
Non.
Non.
Non, non, non. D'ailleurs, il y a des hommes qui sont magnifiques hein, dans
parce que
dans
les personnages, entre guillemets, négatifs, il y a évidemment son père, il y a évidemment ce psy qui l'aide quand même à un moment donné, il faut être nuancé,
aussi,
hein,
mais
qui fait ce geste incroyable de brûler cette lettre, parce qu'en en fait, il lui dit que ce n'est pas possible qu'il ait fait ça.
Oui.
Il voulait écrire, mais ce n'est pas vrai.
C'est lui qui ne peut pas voir ce qui est montré, quoi.
Voilà. Et à côté de ça, il y a son mari, on en a peu parlé, son mari, donc Harry Matthews, mari américain, qui lui est un type formidable, qui la soutient tout le temps dans la maladie, dans son désir d'être artiste. Oui. Il la soutient tout le temps, même quand elle le quitte, à un moment donné.
Elle
quitte son mari et ses enfants. Et ils maintiennent le lien, quand même. Il y a quelque chose de terrible, c'est qu'en fait, elle quitte son mari, gentil, tout ce qu'on veut, on peut lui trouver toutes les qualités à cet homme, et elle va se trouver un amant qui est un type, comme par hasard, maltraitant.
Une abomination.
Qui l'humilie, qui la frappe, qui la rabaisse. Il est épouvantable. Elle va vers cet homme-là. Et il y a le pauvre Jean Tinguely, qui déjà à l'époque est fou amoureux d'elle, mais qui est vraiment l'amoureux transi.
Oui.
Et qui lui est un brave type aussi.
Ah oui, c'est comme ça. Mais là aussi, il faudra qu'elle fasse ce chemin et qu'elle se
libère, en fait.
Se libère de cette... Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle va finalement accepter et comprendre et montrer ce qui lui est arrivé par rapport à l'inceste et se débarrasser de cet abominable amant, à ce moment-là, elle naît. D'une certaine façon, elle naît dans l'art et dans la création.
Ben en fait, l'avant-dernière scène du film, alors, la dernière scène, c'est quand elle tire. On peut trouver ça sur Internet. Hein, la vraie Nikki de Saint-Phalle qui tire sur des poches de peinture qui se répandent sur des sculptures. La scène précédente, c'est qu'elle va chez son amant, celui qui l'a frappé. Oui. Elle s'introduit chez lui. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'elle vient faire. Oui. On voit, elle regarde. Et en fait, elle repart avec une chemise blanche. Elle rentre chez elle, elle la cloue sur un panneau de bois.
Oui, avec.
Et puis elle lance dessus des couteaux, une hache. Bon, vous voyez, bon, toute la symbolique de la chose. Et après, elle s'assoit sur une espèce de fauteuil en rotin à la Emmanuel.
À la façon Emmanuel.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle écarte les bras. Là, on comprend qu'elle déploie ses ailes et qu'elle va prendre son envol. Voilà. Et c'est là qu'elle va devenir artiste et qu'elle va faire la carrière extraordinaire qui suit.
Et le film s'arrête là.
Oui, le film s'arrête là, effectivement.
Et donc, elle prend son envol, comme vous disiez.
Non, mais c'est un film qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Alors, il y a des moments où c'est peut-être un peu lourd.
Un peu appuyé.
Elle insiste un peu trop sur certains points, peut-être. Bon, c'est un premier long métrage, attention. Hein,
plein de qualités. Il y a aussi, il faut le signaler, c'est créé en chapitres. Il y a trois chapitres.
Nikki, c'est pas Martine à la plage, c'est Nikki fait ceci, Nikki fait cela.
Exactement. Bien avec un titre à chaque moment, bien séparé.
On va pas en dire plus. Hein. Maintenant, il faut aller voir Nikki à l'ABC si vous habitez à Toulouse ou autour. Et puis, vous pouvez en parler de vive voix avec Paul et Louis-Marie, comme nous venons de le faire mardi prochain, le 15 octobre, lors de leur ciné-parole à 14h30 à l'ABC. Nous allons faire une pause musicale dans cette émission avant de reprendre nos discussions autour de Uccellacci et Uccellini, le film de Pier Paolo Pasolini. La bande originale de ce film est signée Ennio Morricone. Ce fut d'ailleurs la première collaboration entre le célèbre compositeur et le réalisateur. Nous allons écouter le premier morceau, celui sur lequel s'ouvre le film, sous forme de générique chanté. C'est assez singulier. Di Toli di Testa. On se retrouve ensuite.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia Uccellacci ed Uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Venuzia, Vittorio, Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione. Alfredo Bini dirigendo rischio alla reputazione. Pierpaolo Pasolini.
Présence. Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la seconde partie de Vivante Église. Je suis toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Nous faisons donc un saut de près de 60 ans en arrière dans l'histoire du cinéma avec Uccellacci et Uccellini, film de Pier Paolo Pasolini sorti en 1966. La traduction française du titre, c'est Des oiseaux petits et gros. D'ailleurs, ça serait plutôt Des oiseaux gros et petits, peu importe. Je vous ai proposé ce film parce que nous allons commémorer dans quelques semaines l'anniversaire de la mort de Pasolini, assassiné le 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie. Et puis nous fêtons en 2024 le 60e anniversaire de la sortie de l'Évangile selon saint Matthieu, film déjà abordé dans Vivante Église. À ce propos, Paul Dima, est-ce que vous pouvez resituer Uccellacci et Uccellini dans l'œuvre de Pasolini? Il me semble important de le faire. C'est un film qui intervient après et avant quelles autres de ses réalisations?
Alors de fait, c'est un film charnière dans la filmographie de Pasolini. La première période qui se termine avec l'Évangile selon saint Matthieu, avec trois œuvres importantes, et il y a le film dont on parle aujourd'hui, et puis après, des films qui sont plus inspirés de la mythologie et de l'histoire. Donc Pasolini était très cultivé.
Un poète lui-même, auteur, poète, penseur aussi,
voilà,
bien sûr.
Oui. Et donc, c'est un film surprenant, parce qu'il donne la place à une sorte de récit médiéval, de fable.
Oui, c'est une fable, un conte médiéval.
Un conte médiéval qui donne à penser. Qui donne à penser à deux personnages qui n'ont pas trop envie de penser.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et il y a un corbeau
qui les suit partout.
Qui suit les deux personnages.
Un corbeau qui parle.
Un corbeau qui
et
parle.
Et alors, qu'est-ce qu'il est, excusez-moi du temps, qu'est-ce qu'il est chiant ce corbeau.
Ah, oui, mais... c'est ce que se disent les deux personnages, et à la fin ça se termine très mal pour le corbeau, on en reparlera. Parce que ces deux personnages, alors, il faut quand même en parler, il y a Toto, qui est un acteur italien très...
Un clown à la base. Hein.
Très célèbre, ouais. Qui fait le clown, mais au sens fort du mot, oui, c'est-à-dire que c'est celui qui révèle ce qu'on n'ose pas faire ou dire. Et puis, il a son fils, entre guillemets, Nino, qui, lui, est un peu, bon, un gars simple.
D'abord, il s'appelle Innocentino.
Innocentino,
dans le film. Innocentino,
oui.
Dans le film.
L'innocent, voilà. Ouais. Alors, le père, qui est un peu clownesque, et le fils innocent, qui font chemin ensemble avec le corbeau, sans trop comprendre ce qu'il raconte. Et puis, alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, il rencontre Saint-François. Et ils deviennent des adeptes de Saint-François.
Des disciples de Saint-François.
Et Toto dit, non, je suis pas, moi je ne suis pas un saint, je suis un humain. Mais ils font tout leur chemin ensemble, alors avec des épisodes tout à fait. Alors c'est un film qui est très drôle en même temps, et très sérieux. C'est-à-dire qu'il interroge l'idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit...
Le terme est employé par le corbeau d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Le corbeau c'est... Allez. On va le dire, hein, c'est une sorte d'intellectuel de gauche comme il pouvait y en avoir à l'époque,
oui.
Et qui fait la leçon en permanence.
Oui, parce qu'il connaît tout, ce corbeau, il est fatigant. Il peut citer Marx, il peut citer l'Évangile, il peut... voilà, donc c'est...
Il est très donneur de leçons.
Ah ben... C'est un idéologue d'ailleurs, oui. C'est un idéologue le corbeau.
Oui. Il va le payer très cher.
Oui, ça...
Et le film ouvre par un carton assez extraordinaire. Où va l'humanité?
Bof.
Oui.
Bof.
Voilà. Et en même temps, c'est pas un film désespéré, mais qui montre les limites de l'idéologie.
Je pense que c'est quand même un film désabusé au moment où il est tourné. Je pense que Pasolini, ouais. Lui-même revenait un peu du marxisme qui était très présent dans ses premiers films, si on parle d'Acatone ou de Mama Rome. Bon, l'Évangile marque déjà un virage tout de même, hein.
Oui.
Même si c'est un Christ un peu marxiste quand même qu'il nous montre, là, il s'éloigne, il commence à s'éloigner. Et d'ailleurs, le sort qui est réservé au corbeau à la fin, bah, il est mangé hein, par les deux loustiques.
Il est étranglé puis mangé.
Il est étranglé puis mangé, on dit assez long. Oui. Sur un peu les comptes que pouvait avoir Pasolini à régler avec une certaine gauche de l'époque.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le parti pris des personnages. Paul en a parlé, mais Toto, c'est Chaplin. C'est Chaplin, oui. Sur les routes. C'est,
bah d'ailleurs,
c'est exactement
avec
ça.
Avec ses pantalons au feu de plancher, ouais, là, vous voyez.
Et puis, c'est mimique. C'est
sa démarche, même à un moment, c'est Charlot.
Exactement.
Quoi.
Et puis, son fils, qui arbore une veste sur laquelle il y a son nom.
Oui.
Il y a son nom sur sa veste. C'est une espèce de blouson comme pouvaient en avoir dans les années 60,
oui,
bah ouais. Les jeunes gens.
Oui,
hein.
Oui, oui.
D'ailleurs, à un moment, il essaye de danser le rock.
C'est du twist, plutôt.
Ou oui. Du... Effectivement, c'est plutôt du twist. Et alors, il traverse une Italie. Mais alors, une Italie, c'est terrible, c'est une Italie de bidonville. On ne voit que des bidonvilles.
Et c'est ce qu'elle veut nous montrer Pasolini, ce qu'est l'Italie à l'époque.
Et puis, toutes les rues n'ont aucun nom de grand nom. Alors, c'est soit un chômeur, soit un éboueur, soit un fugueur. Et les panneaux de direction indiquent que de direction, soit Cuba, soit Istanbul. Voilà. On ne sait pas bien où on va, quand même. Hein.
Istanbul, ça serait peut-être le christianisme primitif, hein, je ne sais ouais, pas, ouais. L'époque de Constantinople, et puis Cuba, ça, on voit bien ce que c'est. Hein.
Avec les kilomètres, hein,
ouais, avec
la direction, mais les kilomètres.
Des milliers de kilomètres, effectivement.
Plus de 14 000 pour Cuba.
Alors, moi, il me semble que le duo aussi fait penser à un autre duo célèbre, de la littérature, celui-ci. C'est Don Quichotte et Sancho Panza, quand même.
C'est un peu ça, oui.
Oui,
oui, oui.
Beaucoup,
oui,
moi, je trouve.
Oui, oui, oui.
Ce sont des personnages quichotesques.
Oui.
Alors, il y a l'épisode, justement, où on les voit d'un seul coup projetés dans l'Italie médiévale. Assise, et Saint-François qui prêche aux oiseaux.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il essaye de faire, Saint-François? Il essaye de faire en sorte que les faucons n'attaquent pas les moineaux.
Oui.
Oui. Alors d'abord, il faut rentrer en communication avec eux.
Ah oui.
Et alors, Toto, le moine,
ah oui.
Il se met à genoux et dit « Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas réussi à parler aux oiseaux ». Mais alors, comment apprendre à parler aux oiseaux? Alors, il rentre en prière. Et son fils, pendant ce temps-là, qui s'embête royalement, il a envie de faire autre chose et tout ça. Et lui ne bouge pas. Et il passe un an. Il y a les ronces, il y a le lierre qui commence à pousser sur lui et tout. Et à un moment, ça y est, il arrive à communiquer avec les oiseaux, miracle et tout ça. Donc, il convertit...
Les faucons.
Les faucons, voilà.
Bon, à la non-violence.
Super.
Et, il sauve les moineaux.
Il veut, voilà. Fin de la prédation.
Alors, deuxième période, maintenant, il faut arriver à parler aux moineaux, les plus petits. Et alors, il arrive aussi, au bout d'un an, à... Alors, il est pris pour un saint et tout ça. Mais voilà, ce qui devait arriver arriva, c'est que les faucons vont bouffer les moineaux. Alors que c'est des bons chrétiens.
C'est la nature qui reprend le dessus. Et la nature du faucon, c'est un prédateur.
C'est peut-être leur façon de louer le Seigneur, mais ce n'est pas ce qui était prévu.
Bon, c'est une parabole franciscaine, mais c'est un peu une fresque renaissance aussi, parce que c'est...
Oui.
On va parler de la beauté plastique du film, c'est un film de toute beauté. De toute beauté, par les décors, par la photographie.
Noir et blanc.
Et puis par les cadrages. Les cadrages, c'est une merveille tout au long du film. Mais ce qui nous montre, en fait, ces faucons qui n'arrivent pas à retenir, d'obéir à leur nature, c'est-à-dire de s'en prendre au plus petit, c'est un peu aussi ce qui nous montre de la société de l'époque. C'est le rapace bourgeois, le possédant, le capitaliste, qui effectivement est un prédateur pour les plus petits dans la société. Alors, sur la beauté du film, vous, Paul Dima, moi je pense que c'est un de ses plus beaux films. D'ailleurs, je crois que c'était son film préféré à lui-même.
Il dit « c'est mon film le plus pur ».
Il faut bien avouer, vous l'avez dit, la qualité de la photographie, l'image, et puis la façon de diriger les acteurs, qui pour la plupart ne sont pas professionnels, à l'exception des personnages principaux.
Absolument, et d'ailleurs, on n'a pas dit non plus, j'ai dit que c'était son premier film avec Ennio Morricone, compositeur de la musique, de la bande originale, mais c'est aussi le premier film de Pasolini avec Toto.
Oui.
Et c'est Pasolini qui a choisi Toto. Je pense que beaucoup de gens n'y croyaient pas d'ailleurs à l'époque.
Qu'est-ce
qui nous fait là? On l'avait vu dans Le Pigeon par exemple.
Toto est à 1000 lieues, à 180 degrés de ce qu'il faisait habituellement au cinéma.
Pasolini, c'était un cinéaste, justement, un intellectuel de gauche.
Exactement.
Et qu'est-ce que vient faire un clown comme Toto avec Pasolini? Mais c'est l'idée de génie.
Oui, Toto qui était un peu comme un acteur.
C'est notre Fernandel, un peu.
Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est Fernandel.
Louis de Funès.
Exactement.
Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que je trouve qu'il a un physique médiéval, justement, Toto.
Oui, il est filmé en gros plan on voit son jeu d'yeux. Enfin, ses mimiques, c'est extraordinaire.
Il est capable de faire avec son visage une gymnastique incroyable, de bouger les yeux, bouger sans faire bouger
très,
le reste.
Très expressif.
Il a la robe de bure de Saint François, sinon il a une espèce de par-dessus, un pantalon trop court et un chapeau irrémédiablement vissé sur sa tête.
Et un parapluie.
Ouais. Oui, c'est important le parapluie.
Et tout à fait. Et puis donc l'autre acteur qui fait ses débuts avec Pasolini en tant qu'acteur principal, c'est Ninetto d'Avoli. Ensuite, ça sera son acteur fétiche, même un peu plus que son acteur fétiche, pour ceux qui s'intéressent à la rubrique People, mais ça je les laisse regarder. Pasolini, Ninetto d'Avoli, c'est une rencontre extraordinaire aussi. On le voit dans l'Évangile déjà, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, mais un tout petit rôle de figurant quasiment.
Mais il est extraordinaire à la fois de l'innocent, le benêt et ce jeune homme qui a envie de vivre comme les jeunes gens de l'époque.
Il n'a pas envie de s'encombrer la tête avec toutes les théories du corbeau et voilà.
Et même de son père. Mais il aime bien son père. Ils sont ensemble. On se demande ce qu'ils font sur la route, tous les deux. Ce qu'ils cherchent, d'ailleurs. Pourquoi ils sont sur la route? On se pose la question d'emblée.
Ça, on ne le sait pas, d'ailleurs. Non. Mais ce n'est pas forcément plus intéressant.
Et d'ailleurs, on aurait aimé qu'ils ne ratent pas le bus pour savoir où ils les amènent. Mais ils le ratent. Et chaque fois, ils le ratent. Ils ne peuvent pas arriver à prendre le bus.
Mais en fait, ils ne savent pas où ils vont, de toute façon.
Non.
Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. Oui. Ils sont en train de chercher, justement, où aller.
Et à un moment même, il passe un peu dans le camp des exploiteurs.
Cette tentation que nous avons tous.
Le film est pur sur une réalité qui ne l'est pas.
Il montre la complexité justement de l'humain et le fait que nous n'avons pas que des idées pures.
Oui.
En tout cas, Pasolini avec ses deux acteurs formidables, parce qu'ils sont formidables et les autres aussi.
C'est un duo extraordinaire dans l'histoire du cinéma.
Fait un film rare et hors du commun. Vraiment, c'est un film qui peut rentrer au panthéon des grands films de toutes les époques du cinéma confondues.
Alors vous disiez que c'est un film charnière. Pourquoi c'est un film charnière? Qu'est-ce qui va changer dans l'œuvre de Pasolini ensuite?
Alors, on a évoqué tout à l'heure les films précédents et les films suivants, il va les ancrer, comme il a déjà été dit, dans l'histoire italienne, dans les grands mythes fondateurs.
Le suivant, c'est Édith Piaf.
Édipe au roi.
Il sera très bon d'ailleurs dans l'Antiquité, Pasolini. Tous ses films qui se passent dans l'Antiquité sont très réussis.
Très réussis, mais il a une culture et un art de transmettre cet héritage qui est extraordinaire. Alors, en quoi ce film est charnière? Parce que là, il aborde un genre tout à fait inhabituel, qui donne à réfléchir. C'est-à-dire qu'en même temps, on rit, mais en même temps, ça donne à penser, comme on dit.
Comme toutes les fables.
Comme toutes les
et
fables.
C'est une fable.
Oui. La fable, c'est ce qui est à entendre de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Et de fait, là, Pasolini dit ses questionnements sur le rapport au politique, sur le rapport au religieux, sur toutes ces questions-là, qui sont un peu fondamentales. Et il les aborde avec une forme apparente de légèreté, mais qui va très loin.
Mais je pense aussi profond. Que c'est un film charnière parce qu'il se détache de l'idéologie marxiste, justement. Oui, c'est pas pour rien que le corbeau est mangé à la fin. Hein.
Oui.
C'est un peu Pasolini lui-même qui mange le corbeau. Hein.
Oui, mais on parle de fable, mais évidemment, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas cette fameuse maxime finale chère à La Fontaine. Il n'y a pas de ça. On les prend à un moment T, ces deux personnages sur la route, et on les laisse à un moment T plus quelque chose, toujours sur la route, et ils partent. Le plan classique de fin de film, on voit deux personnages qui s'éloignent sur la route, et voilà, ça finit comme ça. Après, on voit quand même les restes du corbeau, mais,
oui.
Mais voilà, ils repartent tous les deux.
C'est un plan d'ailleurs très inspiré de Chaplin.
Ben hein, oui.
Oui, un peu comme à la fin des temps modernes.
Exactement. Les temps modernes, c'est les temps modernes.
C'est ça, c'est cette route.
Sauf que là, c'est un couple masculin, c'est pas un hasard non plus. On reparlera sans doute de Pasolini dans cette émission, puisque je rappelle que nous commémorerons les 50 ans de sa mort en 2025. Il devrait y avoir des événements organisés dans nos cinémas autour de cet anniversaire. Le moment est venu de conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que vous animez ensemble la séance du Ciné-Parole consacrée à Nicky, mardi 15 octobre à 14h30 à l'ABC, où le film est actuellement à l'affiche. Je rappelle aussi à nos auditeurs cinéphiles qu'ils ont rendez-vous chaque mercredi à 19h sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à notre écoute. À la semaine prochaine.